Ce message vous est proposé gratuitement et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Donc le message d'aujourd'hui, je l'ai intitulé « Transporte-moi dans ta vie ». Donc en introduction, je voudrais juste que vous puissiez vraiment être participants de toute cette réflexion et ce partage. D'abord, je voudrais vous demander que si vous aviez à vous présenter, qu'est-ce que vous diriez? On a toutes sortes de situations, on rencontre pour la première fois quelqu'un, l'autre peut vous poser des questions, qui êtes-vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous pouvez être candidat pour quelque chose, une inscription à une école, subir ou passer une épreuve orale, avoir un entretien d'embauche ou simplement vouloir rencontrer quelqu'un, vous parler de vous, qu'est-ce que vous dites? C'est important parce que ce que vous dites, c'est ce que vous avez envie que les autres, l'image que les autres aient de vous. Vous voulez donner une image et cette image doit correspondre le maximum à ce que vous pensez. Peut-être vous avez une très bonne image de vous et c'est très bien. Donc vous voulez vous présenter d'une certaine façon. Et donc, je l'ai déjà utilisé à certains moments, mais je trouve que c'est tellement important dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, cette rencontre entre Jean-Baptiste et les personnes qui voulaient l'interroger. Et donc, Jean-Baptiste, il nous est dit qu'à un moment donné, on a entendu parler de lui, et les Juifs ont envoyé de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites. Donc, tout un grand groupe de personnes se sont déplacées pour le rencontrer, lui, à l'endroit où il était. Remarquez bien, c'est pas lui qui a recherché ces gens en disant « Hey, je suis Jean-Baptiste, vous avez entendu parler de moi, je suis quand même maintenant célèbre. » Non, c'est eux qui étaient attirés par ce personnage par rapport à ce qu'il faisait. Donc, on vient vers lui et on lui pose cette question. Tout de suite, il dit qu'il n'est pas. Et au verset 20, il nous est dit « Il déclara et sans restriction, il affirma qu'il n'était pas le Christ. » Ils lui demandèrent, « Quoi donc ? Es-tu Élie ?» Il dit, « Je ne le suis point. Es-tu le prophète ?» Il répondit, « Non. » Ils lui dirent alors, « Qui es-tu ? » Donc actuellement, beaucoup de gens, ils font l'inverse. Ils veulent donner plein de titres. « Je suis ceci, prophète, apôtre. » Et les gens ne comprennent pas. Mais pourquoi mettre en avant l'étiquette ? C'est pas l'étiquette et le titre qui comptent. C'est ta vie, ce que tu es. Jésus a dit, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède, titre, propriété, diplôme, etc. Mais la vie d'un homme dépend de ce qu'il y a en lui. On remarque rapidement quelle est la qualité de quelqu'un. Donc soyez assurés, moi j'ai une très haute opinion de vous tous. Vous avez beaucoup de qualités en vous. Donc quand on vous demande qui êtes-vous, Jean-Baptiste, regardez à Jean-Baptiste et voyez comme il s'est comporté. Il n'a pas parlé dans les choses simplement naturelles. Vous allez vous présenter, nom, prénom, je suis né ici, j'habite là, etc. Mais ces choses-là, maintenant, entre nous, ne nous intéressent pas. Jean-Baptiste n'a pas dit, ben, j'habite dans le désert, c'est pas formidable comme habitation. Qu'est-ce qu'il avait dans le désert? Dans le désert, par définition, il n'y a rien. Bon, on sait qu'il n'y a pas totalement rien, mais en tout cas, il n'y a pas de maison dans le désert. Donc, il devait habiter quelque part, une grotte, une caverne, quelque chose, il s'abritait, hein. Comment tu es habillé? Souvent, on dit, on reconnaît à l'habit, hein, on reconnaît la personne. Donc, mais là aussi, lui, il était habillé d'une façon vraiment particulière. De Jésus, on a dit qu'il avait une superbe tunique. Et donc, dans la Bible, il nous a donné quelques précisions sur les habits. Et Jésus a dit, mais vous êtes allé voir qui? Une personne royale? Mais non. Et donc, il se présente d'une façon spirituelle. Vous aussi, vous devez savoir qui vous êtes. Vous devez savoir que vous êtes un enfant de Dieu, que vous avez été appelé par lui, que vous avez reçu quelque chose. Et surtout, il n'a pas dit non plus, voilà, j'ai un habit de poil de chameau, j'ai une ceinture, je me nourris de sauterelles et de miel sauvage. Mais il a dit, je suis la voie. Je me suis reconnu, je suis la voix. Est-ce que vous êtes une voix aujourd'hui? On dit qu'il y a beaucoup de gens, ils ne sont que des échos, mais ils ne sont pas des voix. Nous devons avoir une voix, ça veut dire nous avons quelque chose à dire par nous-mêmes. Même si nous savons que nous sommes influencés par Dieu, que c'est lui qui nous inspire, c'est lui qui nous aide. Mais nous sommes une voix. Par nous-mêmes, nous avons quelque chose à dire. On n'est pas que des gens qui répétons bêtement ou comme des perroquets ce que d'autres ont dit. Mais nous sommes nous-mêmes une voix. On a entendu de Dieu et on a des choses à dire et à partager autour de nous. D'accord ? Alors, Jésus nous a dit qu'il veut nous donner une vie abondante. Est-ce que tu as une vie abondante de qualité ? Si on te demande qui es-tu ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Alors, il y a des gens qui, encore là, ils veulent voir qu'est-ce que tu as atteint au niveau professionnel, qu'est-ce que tu as atteint au niveau de tes possessions, etc. Mais Jésus dit, est-ce que tu as une vie abondante, une vie de qualité ? Si oui, si tu as déjà cette vie abondante, celle de Jésus qu'on va encore définir, alors continue comme ça. Jamais trop de santé, de vie et des choses de Dieu. Continue comme ça. Et sinon, est-ce que tu aimerais que ça change ? Est-ce que tu aimerais changer des choses, avoir plus de cette vie abondante dont tu as entendu parler ? Alors, pour que quelque chose change, est-ce que faire toujours pareil est la bonne solution ? Réfléchissez un instant. On voudrait que quelque chose change, mais on fait toujours les mêmes choses qu'on a faites. Si tu devais regarder en arrière de ta vie sur quelques semaines et quelques mois, dans ta vie chrétienne, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu fais toujours les mêmes choses ? Tes habitudes chrétiennes sont toujours les mêmes et tu voudrais des changements ? Donc, pose-toi la question, comment c'est possible ? Il y a des gens qui voudraient des changements, mais ils font toujours la même chose. On sait que certains résultats peuvent s'obtenir à l'usure. Hein. Si je veux percer un trou dans un mur, et je commence pendant quelques secondes, j'ai dit, oh non, c'est pas la bonne méthode, ça n'a pas marché. Ah oui, si le mur est épais, il faut que je perce un peu plus longtemps. Donc, on peut dire que certaines choses que nous faisons dans la vie, il faut continuer de les faire, même si les résultats ne sont pas encore ceux qui sont attendu. Comprenez ça ? Des fois, on a besoin de persévérer. Donc, aller jusqu'au bout. Mais quand on est dans l'erreur, aller jusqu'au bout n'est pas la bonne solution. Donc, il faut, à ce moment-là, laisser un changement intervenir en nous. Il faut être courageux, des fois, pour du changement. Donc, la première chose que je voudrais dire à chacun d'entre nous, c'est permet à Dieu de venir dans ta vie. Vous direz, mais attends, la plupart d'entre nous, on connaît le Seigneur, on est là depuis longtemps. Permets-lui de venir dans ta vie quotidienne, d'envahir tous les aspects de ta vie. Apocalypse 3, 19 à 22, j'aimerais que vous reteniez un aspect particulier. Le Seigneur dit, moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Ça veut dire, le Seigneur dit, parce que je t'aime, je ne te laisse pas dans la situation dans laquelle tu es. Je veux que tu puisses changer. C'est parce que je t'aime que je suis intéressé par du changement dans ta vie. Aie donc du zèle, sois motivé. Sois motivé pour le changement et repens-toi, ça veut dire échange de mentalité. Quel est un des problèmes majeurs dans l'Église chrétienne ? C'est une certaine mentalité. Je vais vous dire une à laquelle je pense en particulier, c'est la mentalité d'esclave. La mentalité d'esclave, quand vous pensez à Luc 15, il y avait le fils prodigue, tout le monde sait sa situation. Il est parti, il a dilapidé les biens de son héritage, il a fini misérablement, quand il n'avait plus d'argent, il n'avait plus d'amis non plus. Et donc, il est rentré en lui-même, il est retourné auprès de son père, et il a été restauré. Et en même temps, il a pu ressentir l'amour de son père. Mais pendant ce temps, le fils aîné a toujours été fidèle, toujours obéi, toujours fait ce qu'on attendait de lui. Mais au fond de lui, c'était un esclave. Il était là juste pour servir son père, il n'avait pas une relation de qualité. Et beaucoup trop de chrétiens, ils sont dans une relation avec Dieu, où ils sont dans cette mentalité de tout ce que je dois faire pour être un gentil, brave chrétien, etc. Et en fait, eux sont frustrés. Et j'ose même dire, leur Père Céleste est frustré parce qu'ils ne reçoivent pas son amour. Ils ont l'impression qu'ils servent Dieu, mais ils le servent mal. Et les gens de l'extérieur voient ça et disent, c'est ça la religion chrétienne, être esclave. Et je fais ci, je fais ça, je fais pas ci, et je fais pas ça. Et donc, ce n'est bon pour personne. Personne n'y gagne. Alors, changeons, repentons-nous, changeons de mentalité, arrivons dans une nouvelle dimension, et cette nouvelle dimension, c'est Jésus qui dit, je me tiens à la porte et je frappe. Je ne vous invite pas à la nouvelle naissance ce matin. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Et alors je veux avoir ce repas qu'on partage d'habitude avec les amis. On peut avoir un déjeuner d'affaires, ça se passe à midi, dans notre civilisation c'est comme ça. Mais en général les amis, on les invite le soir, parce qu'après on prend du temps et on peut prolonger la soirée. Et puis des fois on regarde l'heure et ça a déjà passé si vite, parce qu'on est bien ensemble. Jésus veut ce type de repas avec chacun d'entre nous. Un temps de qualité. Je souperai avec lui. C'est le souper. Et lui avec moi. Et lui. Toujours ces deux dimensions. Une direction de lui vers nous et une dimension de nous vers lui. C'est comme ça que ça marche. Une relation à sens unique ne marche pas. Ça ne marche pas. Et j'ai déjà dit à certaines occasions, ces chansons ridicules qu'on entend des fois, « Ne me quitte pas, reviens », etc. J'ai dit, s'il n'y a pas un amour dans les deux sens, on peut supplier l'autre de rester, mais ça ne sert à rien. C'est pour ça que Dieu aime chaque être humain, mais s'il n'y a pas de réponse à son amour, il n'y a pas de relation de qualité, ça ne marche pas. Donc voilà, à nous d'ouvrir la porte, et c'est une victoire qu'on remporte sur nous-mêmes, sur la peur, parce que maintenant Dieu vient. Et il ne vient pas comme le juge. Nous avons des amis qui sont dans le ministère, et ils ont dit, on est arrivé à ne plus inviter des personnes chez nous. Elle dit, soit ils étaient jaloux de ce que nous avons, ou alors ils critiquaient tout ce qu'il y avait chez nous. Donc, ils sont arrivés à une situation où ils ne pouvaient plus avoir cette liberté de partager leur endroit où ils habitent avec certaines personnes. Mais ici, vous n'avez pas besoin d'avoir peur que Dieu vienne dans votre intimité, dans votre maison, dans votre partie où vous êtes vraiment privé. Il nous est dit, parce que celui qui vaincra, celui qui va surmonter cette peur et qui me laisse rentrer dans toute sa vie, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Il domine, il n'est plus dominé par la peur, mais il est maintenant dans une position d'autorité. Comme moi j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. L'Esprit dit ça à l'Église. Il dit à chacun d'entre nous, n'aie plus peur, laisse Jésus envahir ta vie et permets à Dieu de venir dans ta vie. Alors, j'aimerais vous donner une révélation de comment ce message est venu, transporte-moi dans ta vie. Eh bien, ça s'est passé l'autre jour, quand je buvais de cette eau, et c'est écrit, transporte-moi dans ta vie, sur la bouteille. Et au moment où j'ai lu ça, j'ai su que Dieu avait un message pour nous, transporte-moi dans ta vie. Et des fois, je trouve que les publicitaires, vraiment, ils se moquent complètement de nous. Et des fois, je trouve qu'il y a des gens qui ont des idées géniales. Et alors, parlons de publicité. Actuellement, il y avait des publicités à la radio et à la télévision concernant certaines voitures. Vous avez entendu parler, là? Des voitures, et la publicité, en français, se fait pour des voitures allemandes. Deutsche Qualität. Et alors, ils mettent toutes sortes de mots allemands, comme ça. Et ils vous disent, pas besoin de parler allemand pour comprendre, voilà, que c'est de la qualité, de la solidité, et voilà le genre de voiture qu'il vous faut. Alors, je lis, parce que cette bouteille, elle est internationale, en allemand, je vais vous faire un petit cours, c'est écrit « praktisch, handlich, für unterwegs ». Alors, « praktisch », pas besoin de comprendre l'allemand pour comprendre, c'est « pratique ». C'est une bouteille pratique, elle est de petite dimension, on peut l'emmener partout avec soi. Handlich, ça veut dire on peut la prendre dans la main. Je suis capable de la prendre dans ma main. Et für unterwegs, je peux l'emmener avec moi. Mais vous voyez, dans une langue, on ne voit que le côté naturel et matériel. Mais en français, cocorico, on a transporte-moi dans ta vie. Et là, il y a une dimension supplémentaire qui nous parle de quelque chose dans l'esprit. Transporte-moi. Du coup, j'ai une relation avec cette bouteille. Parce que cette bouteille contient l'eau. Et sans l'eau, il n'y a pas la vie. Vous voyez, il y a une différence. Et c'est parce que la Bible nous dit qu'il y a un langage naturel pour parler des choses naturelles et il y a un langage spirituel pour parler des choses spirituelles. On utilise des choses dans le naturel pour illustrer les choses spirituelles. Mais les spirituelles sont les plus importantes. Dans le monde dans lequel nous vivons, les naturels viennent d'abord. Et peu à peu, nous découvrirons Dieu et on découvre le spirituel. Nous savons que Dieu était bien avant qu'il y ait toute la création. Et ça, c'est notre démarche. Donc, vous avez une dimension qui n'est que naturelle, mais vous avez une dimension spirituelle. Où tout à coup, transporte-moi dans ta vie, n'est plus juste une espèce de concept lointain. Oui, Dieu veut faire partie de ma vie. C'est quelque chose qui devient une relation quotidienne. Je l'emmène avec moi. Comme la personne qui, pour votre journée, je ne sais pas, mais soit vous n'êtes pas quelqu'un qui boit beaucoup, ou vous confiez à toutes les possibilités qu'on va vous donner au cours de la journée de pouvoir quelque part consommer, mais sinon, avant que la journée se termine, vous aurez besoin de vous réhydrater. D'accord ? Donc vous pouvez faire comme le chameau, il boit avant d'avoir soif, il fait des réserves. Mais il y a aussi des situations où nous devons pouvoir emmener avec nous ce que nous avons besoin. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu veut venir dans notre vie pour nous accompagner. Et il a dit qu'il est en nous une source d'eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Une source d'eau. Vous savez, il y a des années de ça, on avait donné cette illustration. Il y avait à l'époque... Donc les avions, on faisait le plein, et puis ils pouvaient faire un certain voyage, ils atterrissaient, et on refaisait le plein. Et puis il y a eu cette capacité d'envoyer d'autres avions, et en plein vol, on pouvait faire un transfert de carburant pour que le premier appareil puisse aller encore plus loin. Et donc quelqu'un a emmené cette idée qu'avec Dieu, on n'est pas juste... Par exemple, le dimanche matin, on est ensemble, là, on reçoit la parole, on se fortifie, etc. Et puis, on essaye de faire le vol jusqu'au dimanche suivant. Mais il y a cet approvisionnement en plein vol, c'est-à-dire que partout où vous êtes, tout au long de la semaine, vous avez Dieu avec vous. Et pas seulement au cours de la semaine, mais pendant votre journée. Emmenez-le partout où vous allez. Que ça ne soit pas juste une théorie ou une chose où on se dit oui, c'est comme ça, bien sûr, Jésus a promis qu'il serait avec nous, mais que ça soit une réalité. D'accord? Et donc là, je me rends compte déjà que quelques minutes se sont passées et normalement, nous devons faire là une pause. Parce que les statistiques nous disent que on a déjà dépassé votre capacité de concentration. Donc on fait une pause et je me tourne vers l'autre caméra pour faire un autre plan. Je dis ça comme ça parce que peut-être certains auditeurs ne comprennent pas, mais ça ne fait rien. C'est l'idée que on veut agir sur les capacités d'attention des gens. Mais si vous avez soif de Dieu, reprenez un grand bol d'air, d'oxygène. Vous pouvez aussi boire de temps en temps si vous avez besoin, parce que notre cerveau a besoin de beaucoup d'eau pour bien fonctionner. Et de s'orienter vers ce passage de la Bible qui dit dans Jean 15, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Oui, ce que vous voudrez. Alors si vous pensez que l'évangile c'est juste une façon d'obtenir de Dieu tout ce que j'aimerais, vous allez être déçus. Par contre, si vous comprenez le sens de Jean 15, quand il nous est dit « Je suis », Jésus a dit « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Et tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte de fruits, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. » Donc, si vous n'êtes pas très au fait de tout ce qui concerne la vigne, on va quand même dire que les sarments, donc ce sont les petites branches de la vigne qui sèchent de façon extrêmement rapide. Et ce n'est pas un bois de qualité où on pourrait faire autre chose avec. Hein. Vous ne pouvez pas l'utiliser pour du bâtiment. Vous ne pouvez pas l'utiliser comme bois de chauffage pour l'hiver. C'est juste, c'est comme des brindilles. C'est sec, très très vite, on ne peut plus rien en faire. Et ici donc, Jésus utilise cette illustration pour dire que dès que vous êtes coupé de lui, dès que la vie de Dieu ne coule plus en vous avec abondance, déjà, il y a un danger pour le fruit. Or, qu'est-ce qu'on veut? C'est le fruit. Nous désirons le fruit. Le fruit, c'est ce qui vaut la peine dans la vie. C'est ce qui est vraiment de qualité. Quand on voit le fruit de l'esprit comme il est décrit, c'est ce que les gens recherchent au plus profond d'eux-mêmes. L'amour, la joie, la paix, la bonté, la douceur, la bienveillance, la maîtrise de soi, la fidélité. Toutes ces choses, les gens les recherchent. N'est-ce pas vrai? On voudrait surtout que les autres soient comme ça avec nous. Parce que pour les disciples, je pourrais dire, oui, maintenant, tu fais vraiment un objectif pour ta vie, que ce fruit abonde en toi. Mais dans le naturel, en fait, nous, on ne se dit pas, oh, je voudrais surtout manifester beaucoup du fruit de l'esprit. On voudrait surtout que, dans le naturel, les autres, ça c'est le naturel, que les autres manifestent ces choses à notre égard, parce qu'on a un besoin. Et après, on découvre que, bah oui, ça marche dans les deux sens aussi. C'est comme ça que ça marche. Réfléchissons encore un instant à la nature de la vie céleste en nous. Où est-ce qu'on a ce passage où il est dit, tel il est, tel nous sommes dans ce monde? Eh bien, c'est dans 1 Jean 4, au verset 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire pour vous. Mais ici, il y a une explication. J'ai deux points et ensuite une suite de versets. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Vous voyez, je vous avais parlé tout à l'heure que nous devons arriver dans une situation où nous n'avons plus peur du regard de Dieu dans notre vie parce que nous avons compris que son regard, c'est un regard d'amour qui veut notre bien et qui cherche à nous bénir. Il n'y a donc pas de crainte du jugement, il n'y a pas de crainte de la punition parce qu'on a compris quelle est la nature de l'amour. La crainte suppose un châtiment. Celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Donc nous sommes appelés à manifester cela. Que des gens, en notre présence, qu'est-ce qu'on a dit? On veut emmener Dieu dans notre vie. En notre présence, ils ne se sentent pas jugés. Ils n'ont pas de crainte. Ils ne se sentent pas constamment observés ou critiqués. Tel il est, tel nous sommes dans le monde. Il n'y a pas de crainte, de jugement. C'est quoi? C'est faire une différence. C'est trancher. Jugement, ça ne veut pas dire condamnation. On l'a déjà dit, mais j'ai besoin toujours de redéfinir ça. Ça veut dire qu'il y a une façon de séparer. La nature de la vie céleste veut se manifester. Comment pouvons-nous faire pour davantage transporter Dieu dans notre vie? Il faut avoir cette soif. Est-ce que vous avez cette soif? Est-ce que vous voulez la développer? Tous les jours, vous pouvez dire à Dieu le matin, j'ai soif de toi. Vous le sentez peut-être pas. Normalement, le matin, quand vous vous réveillez, vous avez soif. Alors, transposez-le. J'ai soif. Mais en même temps, je veux aussi développer la soif de Dieu. Rendez-vous service. Faites quelque chose. Verbalisez-le. Exprimez-le. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour qu'il y ait davantage de la vie de Dieu en vous? Vous pouvez lire. Vous n'avez pas besoin de lire des quantités. Mais il faut lire quelque chose. La lecture est importante. Dieu nous a donné sa parole dans un livre. Lire, entendre un mot, quelque chose de la part de Dieu. Encore, c'est pas la peine forcément de passer une heure à écouter le matin. Il suffit de l'une ou l'autre parole, une pensée qui va vous accompagner, mais quelque chose. Certains ont développé, entre guillemets, une mauvaise habitude de partir dans la journée à jeun. Je ne fais pas maintenant de cours de diététique, de comment chacun doit s'alimenter, c'est pas ma question. Chacun doit vivre son rythme. Mais il est sûr qu'à un moment donné, si vous donnez rien à votre corps, votre état, vous ne serez pas en état de donner le maximum dans votre journée. Il faudra qu'il y ait des apports. Donc spirituellement aussi, si vous êtes à jeun, si vous recevez rien de Dieu, au bout d'un moment, ça va baisser. Donc lire, entendre et surtout méditer. Murmurer, repasser en vous-même une pensée. Si je peux atteindre cet objectif, que vous sortiez d'ici avec cette phrase « Transporte-moi dans ta vie » et qu'elle ne vous lâche pas et que vous la disiez encore et encore et encore, et quand vous avez un moment, une panne de transport, vous n'arrivez plus à avancer, vous dites « Seigneur, transporte-moi dans ta vie. » Transporte-moi, qu'il y ait cette relation entre nous où il y a des choses de Dieu qui viennent vers moi et moi j'ai des élans vers Dieu. Donc c'est mon objectif que cette phrase, quelque chose vous accompagne. Ensuite, vous pouvez la transformer de méditation en prière. À un moment donné, il faut le dire. La prière, c'est le dire. Ça peut être un soupir inexprimable, je suis d'accord, mais vous avez une bouche, vous pouvez l'exprimer aussi, hein, c'est possible. Donc vous pouvez le dire. Je ne comprends pas tout, Seigneur, mais transporte-moi dans ta vie. J'ai rien compris à cette phrase, mais transporte-moi dans ta vie. Je sais que ça va répondre à quelque chose, je sais que ça va répondre à la soif, quelque chose va se produire. Donc déclarer, prier, c'est bien. Déclarer, après, on peut dire c'est mieux dans le sens, ça devient plus fort, la déclaration de foi. Maintenant, je sais que la vie de Dieu est en moi. Et on reprend les choses. Peut-être vous rappelez d'un petit cantique. Oui, j'ai la vie de Dieu en moi. Ma vie est en toi, Seigneur. Vous dites ces choses. Vous avez lu, vous avez entendu, vous avez médité, vous avez prié, vous avez déclaré. Prenez un temps pour écouter. Puisqu'on a dit c'est dans les deux sens, maintenant il y a peut-être un complément où Dieu va vous dire quelque chose là-dessus. Vous écoutez et ressentir. À un moment donné, ça doit se transformer aussi dans quelque chose que vous éprouvez. Je ne sais pas si ça sera des frissons, ou ça sera une vision, ou ce sera quelque chose, une chaleur, ou une manifestation de l'onction, ou simplement un bien-être, ou une paix profonde, ou une grande joie. Quelque chose doit se passer. On doit passer du stade de tout ce qui est intérieur, tout ce qui est en nous, tout ce qui est au niveau du cerveau, ça doit se transformer en quelque chose qui nous affecte tout entier, esprit, âme et corps. Hein? Parce que la joie, à un moment, la joie du Saint-Esprit se manifeste. Il nous est dit, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, la joie intérieure, les disciples l'ont vu. Ils disent, waouh, quelque chose est en train de se passer sur lui. Donc, soyez dans quelque chose que vous puissiez ressentir. Et j'aimerais, si vous avez besoin de ça, vous donner, il y a des supports. De temps en temps, on peut être un peu en panne. Alors, on se tourne vers la Bible. Il y a des endroits qui nous aident. Et moi, j'aime beaucoup le psaume 42. Alors, je partage avec vous juste deux, trois mots. 42. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Alors, si les histoires de biches et de moutons et de brebis, vous trouvez que c'est un peu du folklore, oubliez ça, mais gardez l'essentiel. Mon âme soupire après toi, ô Dieu. D'accord? Et à un moment donné, au verset 8, il est dit, un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Alors imaginez-vous, si vous avez eu le privilège d'être déjà au bord d'une plage, la mer, c'est comme quelque chose qui est vivant. Ça, la plupart du temps, avant que ce soit vraiment la mer d'huile, comme on dit, mais sinon, il y a tout le temps du mouvement, il y a du mouvement. Et ces vagues, on sait que c'est juste de l'eau qui prend diverses formes, mais c'est un spectacle étonnant, et c'est quelque chose qui ressemble à la vie. C'est en mouvement, ça bouge, et ça, c'est, la plupart du temps, c'est un spectacle qu'on aime regarder. Et ici, donc, pensez, un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Donc, toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Je dis, bah, au secours, je suis en train de couler, les vagues passent sur moi. Mais imaginez une personne qui souffrent du chaud, de soif. Bon, je sais que la mer, c'est pas le bon exemple pour désaltérer, mais l'idée que c'est rafraîchissant, c'est quelque chose qui vient sur nous, qui passe sur nous. Et dans la Bible, souvent, il y a l'image du feu, c'est souvent le jugement, c'est la destruction. Hein, quand on pense à l'enfer, on pense aux flammes. Et d'un autre côté, vous avez Dieu qui est la source de la vie, c'est l'eau et c'est rafraîchissant. Et dans les Actes des Apôtres, il est dit, priez pour qu'il y ait un temps de rafraîchissement. D'accord? On ne rentre pas dans toutes les considérations de l'eau et du feu, mais c'était juste pour illustrer. Et donc, le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce et la nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Ça devient quelque chose de très personnel. C'est pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est pas le Dieu de je ne sais qui. C'est le Dieu de ma vie. Donc, dernier point. Il sera avec toi partout. Si tu le souhaites, ce n'est pas parce que Jésus a promis « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde » que automatiquement il est toujours là, etc. Il est toujours là, c'est vrai, mais il est davantage là pour se manifester, pour t'aider si tu le souhaites. Vous voyez ? Parce que à quoi ça me sert si j'ai quelqu'un qui est présent à mes côtés, mais qui n'intervient jamais quand j'en ai besoin ? Ou si je lui parle, il ne me répond pas ? Ou alors il me parle et moi je ne lui réponds pas. Donc il n'y a pas de communication. Donc à un moment donné, il ne faut pas juste qu'on s'appuie sur quelque chose de théorique. Il est avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais concrètement, je l'emmène avec moi partout où je vais. Il l'a promis, il est avec nous. Mais la Bible nous dit curieusement, et c'est écrit à des chrétiens, dans l'épître de Jacques, approchez-vous de lui et il s'approchera de vous. Dans le sens qu'il y a un moment, vous voyez, il y a des versets, on a l'impression qu'ils se contredisent. Pourquoi dire s'approcher de Dieu si Dieu est en nous? Alors, des fois, notre cerveau veut raisonner, mais là, ce n'est pas une question de raisonnement, c'est une question d'expérimentation. On le vit réellement. Chaque fois que tu le souhaites. Et là, on a une exhortation aussi dans Ecclésiaste, comme une sorte de conclusion à toutes les réflexions philosophiques que ce personnage de l'Ecclésiaste a pu se faire. Et ça commence bien parce que on a envie, tout le monde a envie de dire, ah ouais, c'est bien ça, c'est écrit dans la Bible. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Voilà, fais tout ce que tu veux, tout ce que tu as envie de faire. Et vas-y, fais-le et profite de la vie. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement, à la lumière de ce que j'ai dit. Ça veut dire qu'il y a des choses qui seront tranchées, ça sera éprouvé. Ça veut dire, tu peux faire des choses que tu as envie, mais certaines choses ont de la valeur et d'autres n'ont pas de valeur. Certaines choses construisent ta vie et d'autres détruisent ta vie. Donc il est dit encore, bannis de ton cœur le chagrin, c'est un bon conseil, éloigne mal de ton corps. Car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Donc il dit, profite pendant que vraiment tu peux profiter. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Donc le fait de ne pas s'attacher à Dieu de manière précoce fait qu'à un moment, on se demande, oh, ça sert à quoi ? Quelque chose s'installe en nous où on ne prend pas plaisir aux choses de Dieu. Donc il est important de développer cette soif et le plus tôt possible en chacun d'entre nous. Donc rappelez-vous, Jésus est venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. C'est Jean 10:10. Je suis venu afin que les brebis, donc les hommes, chacun d'entre nous, aient la vie et la vie en abondance. Et la traduction du grec à l'origine c'est Zoé, c'est la vie. La vie de Dieu, c'est une vie de qualité. Jésus est venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Disons-le ensemble. Jésus est venu pour que j'aie la vie et la vie en abondance. Et disons encore, transporte-moi dans ta vie. Amen.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.